Place Info.
Bonsoir à la une. Édouard Philippe qui veut prendre son temps sur les retraites. Notre sondage Odoxa, Dentsu Consulting, France Info, Le Figaro, sur l'image, on va dire, mitigée du Premier ministre auprès des Français et toujours la controverse Richard Ferrand. C'est dans Les Informés avec Véronique Reil-Soult, directrice générale de Dentsu Consulting, avec Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, Pascal Jalabert, rédacteur en chef du bureau parisien du groupe EBRA, qui regroupe les grands titres régionaux de l'Est de la France, et Gilles Bornstein, éditorialiste politique à France Info. Bonsoir à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur notre canal 27 de la TNT. Voilà donc Édouard Philippe en première ligne sur les retraites devant le Conseil économique, social et environnemental ce matin et sur TF1 ce soir. Le Premier ministre auquel nous avons consacré notre enquête Odoxa Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro que nous allons détailler dans un instant a dit et répété ce matin que le gouvernement prendrait son temps pour mener à bien cette réforme des retraites.
Nous sommes prêts à nous donner tout le temps nécessaire. Si pour certaines professions, la période de transition doit être plus longue, nous l'allongerons. De la même façon, peut-être le nouveau système ne devra-t-il s'appliquer pour certains régimes qu'à des personnes plus jeunes et plus éloignées de la retraite. Là-dessus, je l'ai dit au commissaire, je n'ai aucun tabou. Nous prendrons le temps qu'il faut pour construire ces solutions avec les organisations syndicales et professionnel.
Gilles Bornstein, c'est indéniable, le ton a changé. Hein.
J'ai un ami qui dit, quand il trouve que je vais pas assez vite, il me dit « Toi, c'est doucement le matin et pas vite l'après-midi ». Bah, Édouard Philippe, c'était un peu doucement le matin et pas vite l'après-midi. Le ton a changé, indéniablement. Alors, avec une info confirmée, ça sera avant l'été, mais ce qu'il ne dit pas, c'est donc après les municipales. On s'en doutait, c'est désormais certain. Ça sera après les municipales. Et c'est sûr que donc il y a l'ambition de transformer le système en général, mais ça sera pas d'une grande violence, parce que pour les régimes spéciaux, on l'a compris, l'ambition est toujours là, mais enfin, on prendra le temps qu'il faudra, et il ne faudra surtout pas que ça gêne grand monde.
Oui, Pascal Jalabert, il y a le rapport au temps qu'évoque à l'instant Gilles Bornstein, et même des balises, hein, 2025, alors il faudra que l'ensemble soit à l'équilibre, on démarre le système, 2040, et tout le monde sera au nouveau. Ça fait vraiment une longue distance.
Oui, ça fait une longue distance, donc 2025, alors c'est déjà un an de plus, puisque ça va commencer qu'à partir des personnes nées en 1964, et encore ça ne concernera que 1/42e de leur calcul, donc pas vraiment grand chose. Donc 2040, ça nous mène encore plus loin, et pour les régimes spéciaux, on pense notamment aux cheminots, ça risque d'être encore plus loin. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils vont, à mon avis, l'objectif, ça va être de faire concorder la réforme de la SNCF avec la réforme des retraites, c'est-à-dire qu'en fait, le nouveau système ne concernera que les nouveaux embauchés qui sont sous le nouveau statut.
Sophie de Menton, vous avez la sensation que, au fond, rien n'est vraiment écrit. On va rentrer dans le détail tout à l'heure de ce qui a été dit ce matin et de ce qu'il devrait confirmer ce soir sur TF1, le Premier ministre, mais vraisemblablement, la règle d'origine n'est plus la même à la sortie. Hein. Il risque d'y avoir pas mal d'aménagements.
Oui, de toute façon, on discute. Ce qu'on a discuté, on va se concerter à nouveau et on va se reconcerter après.
Donc ça vous convient quand même la méthode, là, non ?
Non, je suis une impatiente, moi. Alors, j'en ai assez depuis très longtemps. Je trouve que le régime des retraites n'est pas équilibré. Alors, il va recalculer, parce qu'il semblerait qu'il ne soit pas si déséquilibré que ça. Je trouve ça un peu étonnant qu'on recalcule aujourd'hui...
Vous parlez du régime des retraites, j'imagine.
Oui, du régime des retraites qui était en déséquilibre. Donc, il a certainement raison, puisque la France est irréformable. Cela dit, a-t-il vraiment raison, puisque de toute façon, on fait la grève par anticipation. On va avoir la grève la plus suivie, la plus violente.
Vous parlez
qu'on
de la RATP, ça a démarré, c'est surtout le gros est attendu demain. Oui.
Les régimes spéciaux. Donc, si vous voulez, je comprends le Premier ministre, j'ai confiance dans le fait que ce gouvernement veut réformer, mais je suis exaspérée.
Véronique Reil-Soult, on va détailler le sondage dans un instant, mais le ton, le style, prendre le temps. Malgré tout, il y a une annonce d'un projet de loi qui arrive au Parlement, on va dire avant le début de l'été l'année prochaine, mais ce sera une coquille à remplir quelque part.
On va dire que la concertation, c'est plutôt quelque chose qui est plébiscité, mais la question est qui est partie prenante dans cette concertation. Et après, le sujet, il est aussi de comprendre de quoi on parle, et ça devient de plus en plus confus. En tout cas, dans l'opinion publique, les gens ne comprennent plus, sont un peu perdus, et on voit bien dans les commentaires, les uns et les autres se disent, quand on parle de régimes spéciaux, finalement, on croyait qu'ils étaient abandonnés, mais finalement, c'est bien aussi. Enfin bref, on sent qu'il y a une sorte forme de confusion. Donc si attendre permet de clarifier et d'avoir une vraie concertation, tout le monde en sera content, quelles que soient les parties. Mais si ça ne clarifie pas, ça ne va pas s'arranger.
Gilles Bernstein. Il y a quand même, alors c'est sûr, il repousse toutes les décisions difficiles à plus tard. Il y en a une, peut-être pas, il y a quand même une, peut-être une entourloupe. C'est que le régime doit commencer avec des comptes à l'équilibre en 2025.
C'est ce qu'il a précisé, oui.
C'est ce qu'il a précisé.
Petite phrase à la fin.
Il a précisé qu'il y aurait un nouveau rapport du COR pour savoir où on en était. Mais selon ce que dira le rapport du COR, Conseil d'orientation des retraites, et puisque le régime doit commencer à l'équilibre en 2025, peut-être qu'on est exempté de difficultés pour 2040, mais peut-être qu'on ne l'est pas pour avant.
Parce que vous voulez dire que s'il n'est pas à l'équilibre,
on ne peut pas exclure des mesures dures avant, donc tout de suite, pour retrouver l'équilibre en 2025. Et ça, peut-être qu'il le dit sur TF1 tout à l'heure, mais ce matin, il ne l'a pas dit.
Pascal Jalabert, sur l'ensemble, sur la visée d'ensemble de ce qui a été annoncé, on a la sensation que ce qui consistait à passer de 40 régimes à un seul est un petit peu assoupli. La règle s'assouplit au fil des jours et des semaines.
Oui, la règle s'assouplit. Alors, avec le moyen, c'est la transition, c'est les délais choisis pour l'assouplir, afin que ça ne se voit pas trop. Après, la réforme des retraites, c'est à la fois concret et complexe, concret, parce qu'on se pose deux questions. Le citoyen lambda, c'est quand est-ce que je vais pouvoir partir et combien je vais toucher. Voilà. Donc là, c'est du concret. Or, personne n'a la réponse. Et c'est complexe parce qu'il y a une multitude de régimes, de situations, de métiers pénibles, pas pénibles, de carrières interrompues. Donc, du coup, c'est très difficile à expliquer. Et forcément, quand on n'a pas les réponses aux questions, ça crée de l'inquiétude. Donc, il faut, à un moment donné, sortir de cette confusion. Et que quand la loi sera votée, si personne n'est en mesure de savoir quand il part et combien il va toucher, c'est là que le gouvernement aura de sérieux problèmes.
Allez, dans un instant, l'image du Premier ministre selon notre enquête que nous allons dérouler, déployer. Mais tout de suite, 20h10 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Stéphane Nilhomm.
Et cette journée d'explication pour la réforme des retraites après le Conseil économique, social et environnemental, Édouard Philippe est ce soir l'invité du 20h TF1. Le Premier ministre promet 4 concertations d'ici la fin de l'année, dont une citoyenne. Il souhaite un vote de cette réforme l'été prochain. Pour défendre leurs régimes spéciaux, les salariés de la RATP appelés demain à une grève massive. Forte perturbation dès le matin dans les métros, RER, bus et tramways parisiens. La SNCF envoie des SMS ce soir. Elle conseille à ses clients de prévoir un délai pour pouvoir se rendre en gare et ne pas rater leur train. L'Association des médecins urgentistes de France entre à son tour dans la grève des urgences. C'est la première organisation de médecins à rejoindre ce mouvement qui perdure depuis 6 mois. Ces médecins jugent insuffisante l'enveloppe de 750 millions d'euros promise par le gouvernement. Une condamnation à 19 ans de réclusion criminelle pour l'ex-animateur de centre aéré jugé pour viol sur mineur. Verdict ce soir des assises du Nord à Douai. Cet homme de 52 ans est reconnu coupable d'avoir violé ou agressé 7 enfants. C'était entre 1990 et 2015. Et puis, il n'était resté que 9 jours dans le gouvernement Valls. C'était en 2014. Thomas Thévenoud est définitivement condamné pour fraude fiscale. La Cour de cassation rejette son pourvoi. Au moment des faits, il avait invoqué une phobie administrative.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h. Les informés. Jean-François Aquili.
Est-il populaire ce Premier ministre en première ligne sur les retraites? 43% de bonnes opinions selon l'enquête Odoxa, Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro, réalisée hier et aujourd'hui sur Internet auprès d'un millier de personnes. Les précisions avec Gaël Slimane, le président d'Odoxa.
Sa personnalité, oui, il est relativement apprécié. Pour
il
un
passe
Premier
pas
ministre,
pour l'opportuniste, pour il a une cote qui est relativement élevée.
Il a une cote qui
élevée.
Est appréciable, 43% de bonnes opinions dans notre sondage, 57% de mauvaises, donc c'est une majorité de mauvaises opinions, mais 43% c'est pas mal pour un Premier ministre. On a un Premier ministre qui est adulé par les CSP+, les cadres, les personnes diplômées, les personnes aisées, sont plus de 55% à avoir une bonne opinion de lui. Et puis quand on regarde ce qu'est la majorité de la population française, là le jugement global, il est nettement plus sévère auprès des ouvriers, auprès des catégories populaires, par exemple.
Véronique Reilsoult, il a tout dit, là, Gaël Slimane. Ça pourrait presque se décliner pour le président de la République, cette affaire-là.
Alors, je ne sais pas si le président de la République, dans les prochains sondages, on pourra le mesurer, si c'est une star à ce point-là.
Peut-être pas en volume, mais sur la séparation de l'opinion.
Sur la séparation, pour vous donner une idée, vous avez 91% des sympathisants de la République En Marche qui l'apprécient. C'est pas mal, 91%. On peut commencer à dire que c'est un score plutôt important, et vous avez 73% des ouvriers qui ne l'apprécient pas.
Ouais. Donc,
voilà, on voit, ça résume un peu ce clivage. Mais globalement, il a effectivement, si on fait la moyenne, une image plutôt positive. Il est perçu comme finalement quelqu'un de plutôt compétent. On apprécie son autorité et on le trouve plutôt dynamique. Les points sur lesquels il a, par contre, c'est plutôt négatif et de façon majoritaire, c'est qu'on le trouve pas toujours très sympathique et on le trouve pas forcément charismatique.
Ah, ça fait quand même un peu tout et son contraire, Sophie de Montand, non ?
Très charismatique, moi. non, je le trouve digne. Alors maintenant, c'est compliqué parce que le fait d'être sympathique, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est forcément être un peu satisfait aussi par ce qui se passe. Mais je pense qu'il a une dignité, une prestance qui sont. Il est stable quoi qu'il arrive. Il en a quand même vu passer des vertes et des pas mûres. Il arrive à prendre sa place par rapport au président de la République et ça c'est très important. On n'a pas du tout l'impression que c'est son
collaborateur.
Et donc voilà. Alors maintenant il est normal que la politique menée ne donne pas satisfaction à des gens qui sont plus dans le besoin, bah, il est normal que ce soit eux qui le précisent moins.
Gilles Bernstein, Premier ministre, en première ligne sur les retraites, parce qu'au fond, c'est un peu sa fonction, un peu fusible, un peu deuxième roue du carrosse, finalement.
Oui, mais il le fait plutôt pas trop mal, j'ai envie de dire. Enfin, je comprends, j'ai l'impression qu'il a dans l'opinion publique, c'est un peu Alain Juppé sans les défauts. C'est-à-dire comme Alain Juppé, compétent, sérieux, mais plutôt... Alors, le sondage dit pas très sympathique. Moi, effectivement, je trouve qu'il a l'air plutôt plus sympathique. Il m'est arrivé de rencontrer les deux. Franchement, il est plus sympathique qu'Alain Juppé. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Ouais.
Mais il fait vraiment très... Comme Alain Juppé, il fait très France qui va bien. Donc, ça souligne ce que disait Véronique sur le fait qu'il est aimé des cadres supérieurs... Et pas tellement des ouvriers. Voilà, il fait très France qui va bien, très raisonnable, très un homme raisonnable pour donner des solutions raisonnables à un pays.
Véronique Rensoult, oui, complément, oui.
Un petit complément, c'est que sur les réseaux sociaux, on voit que en fait, il a quelque chose qui est fort, même sur les CSP moins, c'est que il incarne bien la fonction. Oui. C'est-à-dire qu'on reconnaît que c'est un premier ministre. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que quand vous regardez les volumes de discussion, si on compare par exemple à Manuel Valls, on parlait toujours beaucoup plus de lui que des autres. Membre du gouvernement. Là, c'est pas le cas. C'est pas la personnalité dont on parle le plus sur les réseaux sociaux. On parle plus de lui associé à d'autres ministres ou au président. Et en fait, c'est pas sa personne, c'est sa fonction. Il incarne une fonction et on reconnaît qu'il incarne bien cette fonction.
Justement, Pascal Jalabert, c'est ce que souligne l'enquête en question. Le problème ne vient pas de la personnalité d'Edouard Philippe, mais de la politique qui est menée. C'est au fond, c'est à travers lui, à travers le gouvernement qu'est jugé finalement l'action qui est mise en œuvre.
Oui. Alors, on retrouve dans l'enquête d'Odoxa Dansou exactement le vote de la présidentielle et plus encore des européennes avec une fracture politique qui colle à une fracture sociale, géographique, avec des CSP+, ce qu'on appelle les CSP+, c'est-à-dire des gens plutôt aisés, des retraités aisés, des cadres qui apprécient l'action du gouvernement et puis les classes dites populaires, ouvriers, employés qui s'y opposent. Donc voilà, on est toujours dans ce clivage et Édouard Philippe correspond à la catégorie, à la même catégorie que ceux qui aiment Emmanuel Macron. Alors là où je fais une différence avec Alain Juppé, et je crois que ça vient de là, c'est que Édouard Philippe a été maire avant d'être Premier ministre. Alors qu'Alain Juppé n'avait pas été maire quand il était Premier ministre. Et on voit quand même que très souvent, notamment quand il est avec des élus locaux sur le terrain, Édouard Philippe s'est retrouvé ses réflexes de maire et de proximité.
Alors, comme il est un bébé Juppé,
il faut le rappeler.
Oui, il y a une différence, sans doute. Mais tout à l'heure, Stéphane Milhomme évoquait la forte mobilisation à prévoir au sein de la RATP demain, justement, à propos des retraites. Gilles Bernstein, j'imagine qu'Édouard Philippe a conscience que peut-être il y a là un risque de forte mobilisation autour de la question des retraites, comme en 95, comme du temps où son mentor était Premier ministre.
Eh ben, il est bien placé pour savoir à quel point une réforme des retraites peut être délétère, terrible pour un Premier ministre. Celui qu'il soutenait à l'époque l'avait peut-être abordé avec un peu trop de raideur, donc il a le contre-exemple, il sait ce qu'il ne faut pas faire. Bon, c'est la mère de toutes les batailles, on le sait, les membres du gouvernement n'arrêtent pas de dire que finalement cette réforme est la plus importante du quinquennat. Les syndicats qui jusqu'à présent ont à peu près tout perdu n'ont pas réussi en dépit des grèves reconductibles, parce qu'il y a encore un an, la CGT avait infligé au pays des grèves reconductibles pour contrer la réforme de la SNCF,
oui.
Sans succès. sans succès. On sent qu'aujourd'hui, ils veulent jouer le match retour. La journée de demain, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à une telle mobilisation. Ouais. Franchement, j'ai vu les produits. Depuis 1995, je n'avais pas vu ça. Paris va être complet. Enfin, à part des trottinettes, il n'y aura rien du tout.
Et Sophie de Menton, le regard de la responsable d'éthique sur ce qui va se produire demain à Paris, en région parisienne.
Écoutez, comme d'habitude, les entreprises font face, c'est-à-dire télétravail, ça tout le monde y est. On a essayé de gérer ça. C'est compliqué.
C'est un peu à la marge quand même. Hein.
Pardon ?
C'est un peu à la marge hein, quand même. Le télétravail, ça concerne quand même quelques...
Oui, mais là, je parle des entreprises parisiennes. Oui. Voilà,
c'est particulier.
Oui, c'est particulier. Et puis, il faut pouvoir le faire.
Mais votre regard sur la mobilisation qui s'annonce, c'est un coup de semonce ?
Une incite en télétravail, c'est compliqué.
Franchement, je suis très sévère là-dessus. Je ne supporte pas, effectivement, cette opposition systématique. Heureusement, on a vu, je pense à ce que vous disiez, que le Premier ministre avait décidé de ne pas être droit dans ses bottes. Il vacille un peu dans ses bottes. Et il vaut mieux parce qu'un pays paralysé. Donc, notre peur, c'est que ça se prolonge et que ça paralyse nos boîtes parce qu'on a beaucoup de mal à s'en remettre des journées comme ça. Ça coûte très cher. Mais c'est insupportable. Et alors là, je ne vois personne dans les entreprises qui peut soutenir cette grève.
En même temps, cette grève traduit au fond une angoisse, ceci
non,
étant.
Non, écoutez, ça l'est. Franchement, la RATP est à peine concernée. C'est pour des gens qui ne sont pas en place pour l'instant. C'est pour les suivants que ça va arriver. Vraiment, c'est honteux. Ça n'a pas de sens.
Ah, il répondait à ce qui l'entend. Parce que là, tiens, bazar.
Je veux dire, la CGT se défoule. Enfin bon.
Je crois que d'un côté, on a un Premier ministre qui a choisi la concertation. Et en face, on est dans du classique. C'est la confrontation. Oui. Voilà, donc c'est concertation contre confrontation.
Qu'est-ce que ça veut dire, concertation contre confrontation?
Ce sont des faits.
Voilà. Oui, ce sont des faits, mais on n'arrivera jamais à rien.
Après, quand même, ce qu'il faut dire, c'est qu'en effet, cette mobilisation s'annonce en effet importante demain. C'est que, attention, d'abord les retraites, c'est important. Pourquoi? Parce que chaque fois que l'État dépense 100 euros, il y en a 14 qui partent dans les pensions. Donc, ce n'est pas rien. Ça, c'est pour ça qu'elle est importante. Et deuxièmement, ça peut cristalliser d'autres mécontentements. Là, vous avez les profs de lycée qui sont très remontés. Dans
la
les
santé,
hôpitaux,
n'en parlons pas.
Voilà, les hôpitaux, les urgences, ça va pas très bien. Les cheminots n'ont pas digéré. Les avocats s'ajoutent à tout ça. Mmh. On parle maintenant du transport aérien. Donc attention, cette réforme...
Mais attention à quoi? Les Français sont ingérables.
Non, mais cette réforme peut mobiliser un mouvement contre le gouvernement.
Nous marquons une pause à 20h20 sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, Stéphane Guillaume.
La réforme que nous voulons mettre en œuvre, c'est 2025, une réforme universelle. Parole d'Édouard Philippe il y a quelques minutes pour préciser sa réforme des retraites. Il le précise, nous prenons le temps de construire et de trouver des solutions. Il promet plus de justice et une plus grande solidité du système. 4 grandes concertations sont prévues avant un vote final espéré pour l'été prochain. Le Premier ministre qui est l'invité du journal de TF1. 72% des Français ne pensent pas qu'Édouard Philippe proposera une bonne réforme des retraites. L'enseignement du sondage France Info. Info Le Figaro par Odoxa Dentsu Consulting. Nicolas Dupont-Aignan demande à Richard Ferrand de ne plus présider l'Assemblée. Le président de Debout la France réagissait ce soir sur France Info. Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, annonçait dès hier soir qu'il restait à son poste dans l'affaire des mutuelles de Bretagne. Il a été mis en examen hier pour prise illégale d'intérêt. En versant près d'1 milliard d'euros au fisc, Google va solder son contentieux avec la France. Les responsables du moteur de recherche acceptent de payer les 465 millions d'euros en plus de l'amende de 500 millions d'euros. Ce versement met fin à l'enquête pour fraude fiscale en France. Et puis l'océan Viking cherche toujours un port en Méditerranée pour débarquer 82 migrants en toute sécurité. 5 demandes et toujours pas de destination sûre en 10 jours. Une femme enceinte de 9 mois et son compagnon ont été évacués par hélicoptère hier par les autorités maltaises.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Jean-François Aquilini.
Alors le Premier ministre dont il est question au travers de notre enquête au Doxa, Dentsu Consulting, France Info, Le Figaro, s'est exprimé sur TF1 et dès ce matin avait au fond exprimé la nécessité de mener à bien cette réforme à travers un grand débat national. Vous y croyez, vous, Gilles Bernstein, à cette mise en scène du grand débat qui est censé au fond faire participer les Français à la réflexion sur les retraites?
En tout cas, manifestement, le président de la République y croit, puisque c'est une tactique qui lui a réussi pour sortir de la crise des Gilets jaunes. C'est incontestablement ce qui lui a permis d'entamer un mouvement de remontée dans l'opinion. On verra jusque ça ira, mais les Français lui ont, lui ont donné crédit de sa connaissance des dossiers, de sa bonne capacité d'écoute et de contact avec les gens. Il veut recommencer, puisque le Premier ministre a dit tout à l'heure que ça serait le président de la République qui installerait le grand débat. Bon, moi, je suis un peu comme Sophie sur un certain nombre de points. Pas tous, je vous rassure. Mais je trouve qu'il y a déjà eu 18 mois de concertation et que, on va continuer. Là, c'est borné. Ça va durer. Ouais. Ça va commencer en septembre. Ça va s'arrêter avant la fin de l'année civile. Donc, c'est 3 mois maximum. On verra si les Français ont des choses à dire, comme ils l'ont dit sur le grand débat. Mais bon, c'est vrai que la concertation, vous l'avez dit, Véronique, c'est plébiscité. Après tout,
le problème, c'est que vous l'avez dit, Véronique, c'est extrêmement complexe. On comprend rien. On ne sait plus où on en est, et que on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Et que donc, je me demande si on n'entretient pas une forme de complexité. Pour essayer de noyer un peu le poisson. Parce que aussi, quelle est la bonne réforme des retraites? Il n'y en a pas de bonne réforme des retraites. Il va falloir travailler plus longtemps. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est compliqué de se concerter sur ce sujet.
Oui, apparemment, il n'y aura pas de Big Bang non plus, comme on a pu le dire auparavant, finalement, comparant cette réforme des retraites comme celle que fut de la SNCF évoquée tout à l'heure par Gilles Bornstein, Pascal Jalabert. On a l'impression qu'il va y avoir des exceptions qui vont être égrenées au fil des mois, voire même des années de négociations.
Alors, je ne sais pas si on peut parler de
on ne sait pas encore, hein, mais apparemment, les enseignants, les infirmiers, il y aura des régimes spéciaux qui vont perdurer.
Il y aura quand même des spéciaux, je ne sais pas s'il y a de bonnes ou de mauvaises réformes des retraites. En tout cas, il peut y avoir une réforme juste. Je ne vais citer qu'un exemple, mais celui qui a porté des sacs de ciment pendant 35 ans, il vaut peut-être mieux qu'il parte à la retraite plus tôt que celui qui est resté dans un bureau pendant la même période. Donc, même s'il n'y a pas de retraite, il peut y avoir une réforme juste. Et là, le diable est un peu dans les détails. Comment va-t-on traiter la pénibilité, les carrières écourtées pour cause de maladie, c'est tout ça qu'il va falloir traiter. Donc aujourd'hui, ce ne sont plus les statuts, c'est les carrières entières qu'il faut prendre en compte. Et le régime actuel n'y est pas adapté, ça c'est clair.
Pédant, excusez-moi, c'est ce qu'on appelle les droits non contributifs. On touche deux choses dans une retraite, on cotise et on touche. Très bien. Et puis il y a un certain nombre de choses qu'on veut qui ne sont non contributifs. Les trimestres, pour les femmes, pour les grossesses des femmes, pour la pénibilité, tout ça, ce sont des choses que l'État rajoute et qui sont indépendants des trimestres qu'on a cotisés. Alors voilà, c'est ça que le gouvernement va devoir décider. C'est de l'ajustement très fin. Combien on met pour une première grossesse, pour une deuxième grossesse, pour la pénibilité, pour les horaires nocturnes, pour les charges. Toutes ces choses-là devront être dites par le gouvernement. Et tout ça, c'est vrai que pour l'instant, on ne sait rien.
On ne sait rien. Véronique Reilsoult, par-delà l'image du Premier ministre, qui est selon moi anecdotique à ce niveau de la conversation, de la discussion ce soir, est-ce qu'au fond les Français, est-ce que l'opinion que vous sondez régulièrement est hostile à cette idée d'unification des 42 régimes de retraite?
Non, pas du tout. C'est même une discussion qu'il y a régulièrement. Après, chacun demande à ce que, évidemment, son cas particulier soit pris en compte et a envie de quelque chose de clair et de plutôt simplifié. Parce qu'en fait, la réalité des différents régimes spéciaux, c'est pas tant que les Français critiquent les régimes spéciaux, c'est la complexité pour comparer par rapport aux autres et de comprendre comment ça fonctionne.
Ils trouvent pas ça injuste?
Pas forcément. Que les Français... En fait, on l'a vu au moment de la retraite, de la réforme de la SNCF, on voit bien que globalement, les Français ne sont pas forcément favorables à des régimes spéciaux. Là où ils sont par contre vraiment embêtés, c'est quand ils ne comprennent pas comment ça fonctionne, qu'ils ne comprennent pas les modalités de calcul et qu'ils ne comprennent pas d'où viennent les avantages des uns et des autres. L'exemple que vous preniez de la pénibilité, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a des branches d'activité qui méritent d'avoir un mode de fonctionnement différent.
Juste une précision.
Donc, c'est plus un sujet de transparence, de cohérence et de compréhension. Et donc, c'est plus ce sentiment-là qui ressort là aujourd'hui.
Mais, Véronique, je signale
juste un mot, une précision. Pardonnez-moi, Sophie de Menton, je précise qu'Edouard Philippe a exprimé son amitié et son soutien total à Richard Ferrand tout à l'heure sur TF1. On va revenir sur cet aspect des choses dans la deuxième partie des Informés de France Info. Mais allez-y, poursuivez Sophie Menton sur cet aspect des choses.
Non, juste un mot, c'est que ça fait maintenant 7 ans que le MEDEF, que le chef d'entreprise, réfléchissent à comment instaurer le principe de la pénibilité. Évidemment qu'on en est conscient. Je veux dire, il n'y a pas un patron qui n'est pas conscient qu'il y a des boulots difficiles, d'autres beaucoup moins, d'autres stressants, etc. On n'y arrive pas. Pourquoi ? On n'y arrive pas. Alors pourquoi ? Parce que d'abord, il peut y avoir, il apparaît évident que les boulots de force, etc., sont beaucoup plus pénibles que les autres. Pourtant, on peut considérer qu'une infirmière a un travail extrêmement difficile, qu'il peut y avoir des standardistes. Moi, j'étais dans les métiers des centres d'appel. Les centres d'appel, on peut considérer qu'il y a une pénibilité et que rien n'échappe à la pénibilité pratiquement.
Donc, ce sont des sujets qui restent éminemment sur la table concernant cette réforme. On va revenir dans un instant sur l'interview d'Edouard Philippe. C'était il y a quelques minutes sur TF1 et notamment ce soutien appuyé du Premier ministre à Richard Ferrand, vous le savez, mis en examen le président de l'Assemblée nationale. On se retrouve après la météo, après le rappel de l'info, pour la deuxième partie des Informés de France Info.
Paris, la bataille, le feuilleton des municipales, la nouvelle série des podcasts originaux de France Info.
Je veux être le premier maire véritablement écologiste de Paris.
Tous les vendredis, Benjamin Mathieu vous raconte la campagne pour les municipales dans la capitale. Coulisses, confidences, rebondissements.
Il y a certains qui gagnent pas à être connus, quoi. Certains de mes compétiteurs, plus ils passent à la télé, plus on les déteste.
Paris, la bataille, le feuilleton des municipales, un podcast à écouter sur franceinfo.fr. Disponible aussi sur l'application Radio France. Politique, culture, économie, sport, international. Pour l'info 24h sur 24, France Info. Et tout est plus clair. France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylos innovants et de gammes respectueuses de l'environnement. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez nos gammes éco-conçues sur pilotepen.fr.
La météo, les prévisions d'Élodie Calac de Météo France.
Peu de changements demain, c'est encore au nord de la Loire que l'on trouvera les nuages. Près de la Manche et au nord de la Seine, ils seront épais avec quelques gouttes en prime. Quelques éclaircies se dessineront tout de même l'après-midi. Des éclaircies plus belles du sud de la Bretagne vers la région parisienne, la Lorraine, le nord de l'Alsace. Partout ailleurs, vous profiterez largement du soleil, juste quelques grisailles vite oubliées vers le Pays Basque. Il fera 8 à 16 degrés le matin, 15 à 21 sur le sud-est. L'après-midi, il fera chaud, 20 degrés à Cherbourg, 21 à Lille, 25 à Paris, à Nancy, 28 à Nantes et à Dijon, 30 degrés à Bourges, Lyon, Toulon, 32 pour Agen et 33 à Nîmes. Il fera encore un peu plus chaud ce week-end, une moyenne de 29 degrés au nord dimanche et de 30 au sud.
Et 30 minutes sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Olivia Ferrandi.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Je crois qu'il peut assumer la présidence de l'Assemblée nationale dans de bonnes conditions. La présomption d'innocence vaut pour Richard Ferrand, ni plus ni moins que pour les autres citoyens. Déclaration d'Edouard Philippe ce soir, le Premier ministre. Alors que le président de l'Assemblée nationale a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire des mutuelles de Bretagne qu'il dirigeait en 2011, Emmanuel Macron lui a également accordé sa confiance. Aujourd'hui, les élus de La République En Marche font bloc, mais des voix dissonantes se font entendre également au sein de l'opposition, notamment au Parti Socialiste. Des voix qui rappellent que le président de la République avait fait de la moralisation de la vie publique le socle de son action, selon ses propres mots, prononcés 3 jours avant son élection en 2017. Édouard Philippe s'exprimait donc il y a quelques instants à la télévision. Le Premier ministre a redonné l'essentiel de sa méthode pour négocier la réforme des retraites. Elle vise à supprimer les 42 régimes existants pour les remplacer par un seul régime universel. Elle sera votée d'ici l'été, promet Édouard Philippe, tout en assurant que le gouvernement prendrait encore le temps de la concertation en discutant notamment avec les syndicats. Certains comme Force Ouvrière n'en voient pas l'intérêt, d'autres comme l'UNSA se montrent plus mesurés.
Nous, on n'a pas l'habitude de faire la politique de la chaise vide parce que ça serait la double peine pour les gens qu'on représente. Si jamais, à la fin, le projet ne nous convient pas, mais qu'on a quand même réussi à l'améliorer, ou si, au bout du compte, on arrive à avoir des avancées pour ce qu'on représente, c'est quand même une bonne chose. Il faut pas se dire non par principe et laisser le gouvernement agir tout seul. C'est notre rôle de partenaires sociaux. Je pense que le président de la République, comme le Premier ministre, ont compris qu'il y avait certains secteurs qui méritaient une attention particulière pour qu'il n'y ait pas de puni de la réforme.
Laurent Escure, le nouveau secrétaire général de l'UNSA, et les punis de la réforme pourraient être les salariés de la RATP qui bénéficient d'un régime de retraite spécial avec un départ en moyenne à 55 ans et une pension calculée sur les 6 derniers mois d'activité. L'UNSA est donc l'un des syndicats qui appelle à la grève demain à la RATP, un mouvement qui s'annonce très suivi. 10 lignes de métro seront totalement fermées, notamment les lignes 2, 6 et 13. D'autres ne fonctionneront qu'aux heures de pointe au petit matin et le soir. Ce sera le cas par exemple des lignes 4 et 7 et des RER A et B. Trafic normal sur les lignes 1 et 14, ainsi que pour les RER C, D et E. Les médecins rejoignent le mouvement de grève aux urgences, mouvement déclenché en mars dernier et que les récentes annonces de la ministre de la Santé ne sont pas parvenues à calmer. Aujourd'hui donc, l'association des médecins urgentistes de France estime que les 750 millions d'euros débloqués par Agnès Buzyn d'ici 2022 ne permettront pas d'améliorer la prise en charge des patients. 19 ans de réclusion pour un ancien animateur de centre aéré. L'homme âgé de 52 ans a été condamné aujourd'hui par les Assises du Nord pour viol et abus sexuels sur 7 enfants. Des faits commis entre 1990 et 2015. Et puis le bateau humanitaire Ocean Viking navigue ce soir entre l'Italie et Malte en attendant qu'un port lui ouvre ses portes. À bord, il y a 82 migrants, dont une quinzaine d'enfants. France Info, 20h33. On retrouve Jean-François Aquili pour les informer.
20h, 21h, France Info, les informés, Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec Véronique Rehn-Soult, la directrice générale, la présidente, pardonnez-moi, de Dentsu Consulting, avec Sophie de Monton, chef d'entreprise, présidente, elle aussi, du mouvement éthique, avec Pascal Jalabert, rédacteur en chef du bureau parisien du groupe EBRA, qui regroupe les grands titres régionaux de tout l'Est de la France, et avec Gilles Bornstein, éditorialiste politique à France Info. Alors, Édouard Philippe, tout à l'heure sur TF1, le Premier ministre, a manifesté, exprimé son amitié et son soutien total à Richard Ferrand, dont, vous le savez, la mise en examen pose la question de son maintien à la présidence de l'Assemblée nationale. On va écouter les propos d'Édouard Philippe et vous réagissez ensuite.
Je le crois, oui. Mais encore une fois, j'ai beaucoup de... Je n'ai pas le droit de m'exprimer sur la décision de justice, pour des raisons liées à la séparation des pouvoirs. Et je ne peux pas entrer dans le fonctionnement institutionnel et politique de l'Assemblée nationale ou même du Sénat. Donc, je crois qu'il le peut. Je crois qu'il peut continuer à assurer la présidence de l'Assemblée nationale dans de bonnes conditions. Et puisque vous me posez la question, permettez-moi de dire, non pas en tant que Premier ministre au président de l'Assemblée nationale, mais en tant qu'Édouard Philippe à Richard Ferrand, l'amitié qui est réelle que je lui porte, le soutien qui est total et la confiance que j'ai dans sa capacité à faire valoir son innocence lorsqu'il pourra le faire devant un tribunal. Je vais reprendre les mots de Monsieur Mélenchon, ce n'est pas forcément mon habitude, mais Jean-Luc Mélenchon a raison de rappeler que la présomption d'innocence dans une démocratie, ça existe. Moi, j'ai commencé ma vie professionnelle en tant que magistrat, j'ai ensuite été avocat. Ces mots ne sont pas des mots vides de sens. Si nous voulons préserver, pas simplement pour tel ou tel élu, pour l'ensemble de nos concitoyens, un système d'état de droit, il faut reconnaître la présomption d'innocence. Elle vaut pour Richard Ferrand, ni plus, ni moins que pour n'importe quel
voilà
autre
citoyen. Voilà donc Édouard Philippe, tout à l'heure sur TF1. Pascal Jalabert soutient sans surprise, finalement.
Oui, sans surprise. Et puis depuis ce matin, chaque fois que quelqu'un de La République En Marche ou du MoDem s'exprime, c'est pour rappeler la séparation des pouvoirs et la différence qu'il y a entre un ministre qui est nommé et un député ou un président de l'Assemblée qui est élu. Donc pas de surprise, très convenu. On note quand même, ce sont deux histoires différentes, mais Françoise Rugy n'avait pas bénéficié d'un tel soutien, donc c'était peut-être pour d'autres raisons, alors que là, Richard Ferrand, c'est quand même un pilier de La République En Marche, ouais, de la première heure, un proche du président, et puis visiblement un président de l'Assemblée nationale qui passe bien, y compris aux yeux de l'opposition. D'ailleurs, on a entendu que Nicolas Dupont-Aignan, le Parti Socialiste, la droite n'a rien dit, et Jean-Luc Mélenchon non plus. Donc du coup, voilà, on se retrouve dans une situation où, bon, pour le moment, Richard Ferrand est toujours au perchoir.
Gilles Bornstein, curiosité, il cite le Premier ministre, justement Jean-Luc Mélenchon, qui évoque à l'instant Pascal Jalabert, sur la question de la présomption d'innocence, mais pas sur le procès politique.
Hein. Non, tactiquement, je ne suis pas certain que ça soit bien joué de citer Jean-Luc Mélenchon, parce que vous l'avez dit, celui qui parle de justice
dans un instant,
politique.
Oui.
Voilà, si vous voulez ce que je pense de cette affaire... Ouais. Bon, tant que la jurisprudence Balladur existe, c'est-à-dire que qu'un ministre mis en examen doit démissionner. Je l'ai pas inventé, cette jurisprudence, c'est Édouard Balladur qui l'a inventé, et j'ai regardé le 2 juin 2017, Édouard Philippe, oui, sur RTL, a redit « un ministre mis en examen doit démissionner ». Un Français normalement constitué ne peut pas comprendre que le secrétaire d'État ou Choufarsi, s'il est mis en examen, il doit démissionner, mais le quatrième personnage de l'État qui incarne, qui préside le lieu même de la démocratie, qui représente l'image de la France à l'étranger, ne doivent pas démissionner. Alors, la vraie question est, cette jurisprudence, est-elle opportune ou pas ? On peut en parler si vous voulez, mais tant qu'elle existe,
on va évoquer cet aspect,
je pense qu'il est compliqué d'expliquer que Richard Ferrand peut rester là où un ministre doit démissionner.
Gilles Pensel, vous soulevez la bonne question. On va entendre l'avis de Sophie de Menton et de Véronique Reilsoult dans un instant. Puisque vous parlez de cette jurisprudence Balladur, je vous propose d'écouter ce qu'en a dit tout à l'heure Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, qui était l'invité du 1850 France Info.
C'est surréaliste. C'est pas parce que Richard Ferrand est loyal auprès du chef de l'État qu'il doit rester en fonction, mis en examen pour prise illégale d'intérêt, à la tête du Parlement français, c'est-à-dire la quatrième fonction du pays. Et moi, je voudrais qu'on me dise pourquoi ce qui a été valable pour Richard Ferrand, quand il était ministre, pour François Bayrou et d'autres, ne serait pas valable pour le quatrième personnage de l'État.
Alors, Sophie de Menton, on entend les arguments de Nicolas Dupont-Aignan, qui a rappelé, effectivement, dans cette interview tout à l'heure, cette jurisprudence Balladur qui ne s'applique plus,
Alors, c'est très intéressant parce que vous parlez tous de politique et je suis assez hésitante d'ailleurs sur ce qu'il faudrait faire, sachant que on peut mettre n'importe qui en examen assez facilement, c'est compliqué, etc. Mais moi, ce qui me sidère, c'est qu'on ne regarde pas le pourquoi de cette affaire. On a parfaitement expliqué, on se souvient de ce dont il s'agissait dans une entreprise. Le type qui ferait acheter par sa femme ou sa compagne, je me souviens plus, un immeuble qui est destiné à être loué par sa propre entreprise, je veux dire, il tient pas deux minutes dans l'entreprise. Ça s'appelle un abus de bien social ou etc. Ça n'existe pas. Alors maintenant, il y a une nuance par rapport à ça. Est-ce qu'il en a parlé ? On peut imaginer qu'il ait demandé l'autorisation à cette mutuelle. Non, mais c'est vrai, le vrai sujet.
La plupart des administrateurs ont dit qu'ils n'étaient pas au courant que le locataire final
mais
était.
Mais c'est juste. On parle à l'éthique. On parle à l'éthique des gens qui nous écoutent. On est dans une boîte. Il y a le type qui va.
Qu'est-ce que vous voulez dire au final ?
Je veux dire que c'est malhonnête ce qu'il a fait.
Et pour vous, il doit quitter le perchoir.
Alors, c'est même pas le sujet. C'est vraiment malhonnête. Pourquoi on l'a laissé déjà au début quitter le perchoir. Oui, il y a cette histoire de présomption d'innocence. Là, on rentre dans d'autres débats. Il a fait quelque chose de malhonnête que dans aucune entreprise française, on ne tolérerait. Le type serait viré tout de suite.
Donc, vous nous dites ce soir, Sophie de Menton.
Mais je ne sais pas ce qu'il faut faire.
Ah, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Ça vous choque. Vous estimez que ça ne pourrait pas exister dans l'entreprise, mais vous n'avez pas d'idée de ce que devrait être l'attitude aujourd'hui du président de l'Assemblée nationale.
C'est-à-dire que vous venez de le dire, il y a la présomption d'innocence. Vous venez de le dire.
Qui existe.
Voilà, qui existe. Alors, est-ce qu'on peut attendre un peu ?
Allez, on va poursuivre sur ce débat qui est quand même fondamental. À 20h40 sur France Info. Tout d'abord, ce rappel de l'info avec vous, Stéphane Nilhomme.
Édouard Philippe défend l'idée d'une réforme universelle des retraites à l'horizon 2025, la fin des régimes spéciaux, que chaque euro cotisé par chaque Français, dit-il, produise le même effet. 4 concertations seront organisées d'ici la fin de cette année pour un vote du texte espéré l'été prochain. Édouard Philippe exprime également ce soir sur TF1 son amitié, son soutien total à Richard Ferrand. Le Premier ministre réagit près de 24 heures après la mise en examen du président de l'Assemblée nationale. Richard Ferrand, poursuivi pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire des mutuelles de Bretagne. Parce que la grève devrait être massive demain, la RATP, perturbation des métros, RER, bus et tramway. La mairie de Paris invite les parents d'élèves à prévoir déjà un pique-nique pour les écoliers de primaire. La municipalité redoute que le personnel périscolaire ait des difficultés pour se déplacer. Une manifestation géante au Soudan pour les morts de la répression. Des milliers de Soudanais ont manifesté aujourd'hui à Khartoum. Ils demandent justice pour ces dizaines de protestataires tués depuis décembre 2018 dans la répression du mouvement et qui a conduit au départ et à la destitution du président El-Béchir en avril dernier. Et puis déjà 90 loups abattus cette année pour lutter contre les attaques de troupeaux. La préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes en charge du dossier sur le plan national annonce que le quota annuel a été atteint. Par conséquence, le plafond est relevé à 100 loups à tuer avant la fin de cette année. Des associations écologistes protestent.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Nous allons poursuivre sur ce que disait à l'instant Sophie de Menton, mais tout d'abord je voudrais vous soumettre ces arguments égrenés depuis ce matin par tous les responsables de la majorité, notamment Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des Territoires qui était l'invitée de France Info.
Rien ne l'oblige, ni dans la loi, ni dans le règlement de l'Assemblée nationale, à quitter ses fonctions. Et comme tout personne justiciable, il bénéficie de la présomption d'innocence. Richard Ferrand est un président très estimé à l'Assemblée nationale et qu'il a toute la confiance du président de la République.
L'Élysée le soutient.
Comment ?
L'Élysée le soutient.
Oui, absolument.
Véronique Rel-Soult, est-ce qu'au fond, cette controverse, cette affaire, provoque autant de réactions que celle qui n'a rien à voir, hein, mais qui a poussé M. François de Rugy en dehors du gouvernement ?
Alors, si je regarde les volumes de discussion, non. Non, parce que l'affaire a été feuilletonnée, plus compliquée, etc. Mais si je regarde juste l'intérêt en soi, il y a plus de 115 000 messages sur les réseaux sociaux, donc on peut dire que c'est un sujet qui intéresse les Français. Après, le point était de savoir, dans ces 115 000 messages, finalement, ce qu'ils retiennent. Eh bien, les Français, globalement, conviennent que sans doute le personnage est sympathique, mais eux, leur sujet, c'est un sujet de... En fait, on parle d'un intérêt particulier, donc en fait, ils parlent d'exemplarité, d'un sujet qui est finalement de quoi on accuse Monsieur Ferrand et ils font des comparaisons parfois hasardeuses. Mmh. En particulier, il y a un hashtag qui est souvent associé, qui est décrochons Macron, en disant ben voilà, quand on veut défendre l'intérêt public, qu'on est un citoyen, on a des soucis tout de suite, et quand on est un politique et qu'on défend ses intérêts particuliers, on ne l'est pas.
C'est donc un leitmotiv qui commence à monter
beaucoup. Pour autant, j'ai regardé si le hashtag et les demandes de Ferrand démission étaient très importants. Il y avait 11 000 messages ce soir sur 115 000. On peut dire que c'est pas fondamentalement ça le sujet, mais c'est la défiance et le sentiment, je l'ai lu plusieurs fois, qui était on enterre le principe de l'exemplarité, et c'est ça qui les embête, et ça crée cette défiance et ce sentiment que finalement il y a deux poids, deux mesures.
Tout à l'heure, Nicolas Dupont-Aignan, qui était agacé par cette histoire, plus que cela même, a évoqué l'hypothèse d'une affaire qui allait perdurer, voire s'achever dans quelques jours ou semaines, disait-il. Alors, on est dans l'ordre de la prédiction, mais il a parié sur le fait que les choses allaient s'envenimer. Pascal Gelabert, est-ce que vous pensez qu'on va en rester là ?
Alors ça, c'est difficile de le dire maintenant, quoi. Bon, Nicolas Dupont-Aignan, pardon, il fait de la politique. Donc lui, voilà, il a envie que Ferrand tombe pour pouvoir dire, voyez, je l'avais dit, c'est grâce à moi, etc.
Pas forcément, il s'indignait du procédé, du principe de poids, de mesure.
Oui, voilà, bon, après, c'est son opinion à lui. Je crois que quand même, il y a eu un changement ces dernières années. Alors c'est en partie lié aux réseaux sociaux, à l'information en continu, mais il y a une exigence très forte d'exemplarité et de transparence de la part de nos concitoyens qui, avant, n'avaient pas cette exigence. On ne compte plus le nombre de maires mis en examen ou d'élus mis en examen qui avaient été réélus. Il y en a un pas loin, le Valois-Perret, hein, qui avait été réélu plusieurs fois malgré des mises en examen répétées. Donc aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec l'information continue, avec ces nouvelles exigences, c'est vrai que les élus sont astreints à un devoir de transparence qui peut être gênant. Hein. Certains l'avaient dénoncé. Moi, je me souviens de Marisol Touraine, qui, je crois que c'était sur votre plateau, qui avait dit « Moi, ça m'embête de montrer du patrimoine familial à toute la population. »
Une exigence, effectivement, enfin, sous la des réseaux sociaux, il y a une demande d'exemplarité. Voilà, je trouve que la question qu'on doit tous se poser, c'est comment on y répond. Et de fait, cette jurisprudence Balladur, qui, vous dites, elle est plus appliquée, non seulement elle est appliquée, mais elle est anticipée, parce que François de Rugy, il y a un mois, est parti du gouvernement.
Mais la jurisprudence, c'est un ministre mis en examen.
Avant même d'avoir été mis en examen. Richard Ferrand lui-même, en 2017, est parti avant d'avoir même été mis en examen. François Bayrou, Marielle de Sarnez aussi. Je poursuis. Le temps médiatique a toujours été plus rapide que le temps politique. La politique a voulu aller aussi vite, avec cette jurisprudence Balladur, en disant, après tout, si quelqu'un est mis en examen, si les médias en parlent, eh bien, on va partir. Avec, vous l'avez dit, avec les réseaux sociaux, avec l'accélération des choses, avec l'hyper exemplarité demandée, avec l'effet de loupe permanent, est-ce qu'on peut toujours accélérer le temps ? Est-ce que maintenant, à chaque fois que quelqu'un est cité dans un réseau social, dès qu'il est mis, est-ce qu'il devra démissionner ? Est-ce qu'il n'est pas le temps, justement, de reculer et de dire le temps médiatique s'accélère, va continuer à s'accélérer, et face à cette accélération, eh bien, le temps politique doit à nouveau reculer et renoncer à cette jurisprudence.
Sophie de Menton,
ça serait pour tout le monde.
Alors, moi, je m'attache, si vous voulez, j'ai encore ma casquette de chef d'entreprise qui revient, mais la comparaison qu'il peut y avoir, il y en a un qui est parti à cause d'un homard, Et il y a l'autre qui a quand même acheté un immeuble.
Non, mais c'est, on est dans la symbolique, là. C'est l'histoire.
Ah oui, mais on est dans la symbolique. Et je veux dire, c'est aussi grave parce qu'il faut quand même.
Il est resté, hein. Il vient d'être acquitté. Mais Stéphane Richard est resté patron d'Orange pendant longtemps.
Oui. Et c'est pour ça que c'est très compliqué d'un point de vue politique à gérer. C'est compliqué aussi parce que les gens s'indignent sur des sujets qui ne sont pas du tout comparables. Il y a des fautes beaucoup plus graves qui les laissent assez calmes. Et le fait d'avoir un homard à la Saint-Valentin peut les faire exploser. Donc c'est très compliqué à gérer.
Sur le climat des affaires, sur la gestion politique au fond de tout ce qui se produit en cette rentrée, je vous propose d'écouter Jean-Luc Mélenchon de retour d'Amérique du Sud, hein, qui a donné une conférence de presse aujourd'hui pour dénoncer ce qu'il appelle, lui, il l'a dit et redit, y compris depuis le Brésil, un procès politique à une semaine de sa comparution en correctionnel où il va devoir répondre, vous le savez, avec 5 de ses proches, et bien de cette perquisition mouvementée au siège de son parti en octobre 2018. On écoute Jean-Luc Mélenchon.
Nous faisons l'objet d'un procédé politique d'exception. 17 personnes sont mises en cause. Nous sommes les seuls à avoir été perquisitionnés et traînés en correctionnel. Nous le sommes par ceux-là même qui nous ont interpellés. On voit bien que tout ça s'est passé dans des conditions où nous ne faisions pas obstacle à la perquisition. C'est une invention, parce que pour faire obstacle à la perquisition, il m'aurait suffi d'entrer par la troisième porte que ces pieds niqués étaient même pas capables de garder, vu qu'ils ignoraient qu'elle existât. Ils ont fait 3 réunions de préparation pour monter cette magnifique affaire qui, en fait, a tourné à une comédie grotesque, une pantalonnade sans signification, parce que toute cette procédure sera annulée, vu qu'elle est entièrement remplie d'inégalités.
Gilles Bornstein, les situations, les affaires sont sans lien aucun. On ne parle pas de la même chose sur le fond, mais est-ce que dans le climat général de cette rentrée, au fond, est-ce qu'on a là un responsable politique qui remet en cause la marche de la justice ?
Oui, bah, je le trouve meilleur en imparfait du subjonctif qu'elle exista, il a dit, qu'en analyse politique. Enfin, moi, je ne suis pas dans le secret des juges, mais je ne crois pas un seul instant qu'il y ait une justice politique en France au sens où elle est sur ordre, au sens que le président de la République ou la garde des Sceaux prend son téléphone et dit il faut mettre monsieur ou madame Machin en examen ou monsieur et madame Machin en prison. Sinon, François Bayrou n'aurait pas été inquiété et sinon, Richard Ferrand, dont on parle à l'instant, n'aurait pas été inquiété. Après qu'il y ait des procureurs qui veuillent accueillir des magistrats, qui veuillent régler des comptes, les magistrats sont des hommes comme tout le monde et voilà. Peut-être. Mais je ne crois pas un seul instant qu'il y a des procès d'exception et qu'il y a une justice politique en France au sens où elle obéirait à des instructions des ministres.
Véronique Retsoult, l'opinion suit l'argument du procès politique?
Non, on ne le suit pas vraiment. Le seul point sur lequel ils peuvent critiquer quelquefois la justice, c'est le sujet du citoyen par rapport aux politiques et ce sentiment de poids de mesure. Mais en revanche, la victimisation de Monsieur Mélenchon ce discours-là, il fonctionne peu. Et quand j'essaie de regarder aujourd'hui si Mélenchon et Ferrand étaient associés dans les messages, pas du tout. C'est pour l'opinion publique, deux sujets parfaitement différents.
Pascal Jalabert, sur cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon.
Oui, alors que quand on rentre dans nos courriers de lecteurs, tout ça, bon, ils pensent qu'en effet, Jean-Luc Mélenchon est apolitique. Je crois que la justice, ce qui lui est reproché, alors là je parle pas parce qu'il nous remonte, c'est quand même une certaine lenteur. Parce que là, quand même, vous citiez tout à l'heure l'exemple de Stéphane Richard. Combien d'années Stéphane Richard était patron d'Orange avec cette épée de Damoclès au-dessus? Je prenais une affaire qui n'a rien à voir. C'est l'affaire, vous savez, de la sextape de l'équipe de France Benzema-Valbuena. C'est quand même pas très compliqué. Oui. Ça dure... mais ça dure depuis 3 ans et demi.
En même temps, les magistrats réclament un temps pour la justice, pour les enquêtes, pour que la vérité éclate.
Oui. 3 ans et demi. Là, vous avez toutes ces affaires d'emploi fictif. C'était avant même le début du quinquennat. On est quasi à 3 ans. Donc bon, comment voulez-vous que les citoyens suivent, comprennent que quand c'est si long, si compliqué. Quand on se compare avec les pays voisins, on est les plus lents.
Voilà, toujours ce temps judiciaire qui se heurte au temps médiatique. 20h50 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Stéphane Milhomme.
Un fonctionnaire de l'ambassade de France au Salvador, mis en examen pour terrorisme. Il est soupçonné d'appartenir à la cellule d'ultra-droite AFO. Cette cellule projetait des attentats contre les musulmans en France. Il a été mis en examen en juin dernier. Après la diffusion d'une vidéo d'une interpellation musclée cette semaine à Sevran, région parisienne, un policier est suspendu. La police des polices est saisie. Les images montrent ce policier affronter un homme. Il veut le plaquer au sol, lui assène quelques coups de poing. L'homme se défend et finit par être être maîtrisé avec, semble-t-il, un pistolet à impulsion électrique. Richard Ferrand peut continuer à assurer la présidence de l'Assemblée nationale dans de bonnes conditions. Après Emmanuel Macron, Édouard Philippe apporte son soutien au quatrième personnage de l'État. Richard Ferrand mis en examen pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire des mutuelles de Bretagne. Invité du journal de TF1, le Premier ministre a défendu également sa réforme des retraites. La réforme que nous voulons mettre en œuvre, c'est 2025, une réforme universelle. Il le précise, nous prenons le temps de construire et de trouver des solutions. Et puis Google va verser près d'1 milliard d'euros au fisc français. Le géant informatique américain annonce qu'il accepte de payer 465 millions d'euros en plus de l'amende déjà fixée à 500 millions d'euros. Selon la décision de la justice aujourd'hui, ces deux versements mettent fin à l'enquête visant Google pour fraude fiscale en France.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Nous allons refermer ces informés avec un retour sur cette interview d'Édouard Philippe tout à l'heure sur TF1 pour évoquer la réforme des retraites et le Premier ministre qui est revenu notamment sur la fin des régimes spéciaux.
La réforme que nous voulons mettre en œuvre, c'est 2025, un système universel. Bon, un système universel, c'est un système dans lequel il n'y a plus de régimes spéciaux. Alors, on peut toujours prendre en compte des situations qui peuvent être des situations particulières. J'évoquais tout à l'heure la pénibilité, j'évoquais les carrières longues. On pourrait évoquer la pénibilité. Elle est déjà prise en compte aujourd'hui dans le système actuel. Elle a vocation, évidemment, à être prise en compte dans le système futur. Mais l'objectif, c'est bien de créer un système universel dans lequel chaque euro cotisé par chaque Français produit le même effet.
Sophie de Menton, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir une forme de confusion des messages, puisque là, le message est clair, c'est celui de la fin des fameux 42 régimes et qui ne deviendront qu'un seul et unique régime. Mais le Premier ministre, ce matin, devant le Conseil économique, social et environnemental, a parlé d'exceptions. Tant que la négociation ne sera pas aboutie, la réforme qui ne s'appliquera pas, si au fond les financements ne sont pas au rendez-vous, les mesures de compensation pour les enseignants, les infirmiers, est-ce qu'il y a au fond deux discours quelque peu divergents?
Alors, c'est pas franchement divergent. C'est tellement compliqué que tout peut être dit. Le tout et son contraire, puisqu'on est dans la négociation, que on ne sait pas effectivement si l'âge de la retraite va être maintenu, si c'est une question d'annuité, etc., de points. Donc non, mais ce qui est intéressant dans tout cela, je suis en train de penser à la réflexion de Emmanuel Macron qui avait parlé de l'État profond. Il avait assisté dans un commissariat à une femme battue qui appelait et qui demandait au commissariat qu'on la raccompagne chez elle pour prendre ses affaires. Et le flic avait refusé. Bon, et il y avait le président de la République qui était à côté, atterré et qui pouvait rien faire évidemment. Et il a dit cette phrase qui me semble du coup très très intéressante sur l'état profond. Nous avons en France un état profond, c'est-à-dire des strates absolues dans la fonction publique, des strates dans toutes les réformes que nous voulons faire, des commissions qui viennent s'ajouter aux commissions, des concertations qui s'ajoutent aux concertations. Et donc on a une complexité qui semble nous réjouir parce que ça permet probablement de valser d'un pied sur l'autre. C'est fini, les Français ne veulent plus, il faut réformer la France, il faut réformer l'État, il faut aller plus vite, il faut prendre des décisions claires et il faut se comporter un peu avec le temps de l'entreprise, avec le temps des médias. Et cette réforme-là, je trouve qu'on passe complètement à côté en ce moment.
Ah, vous trouvez qu'on passe à côté du sujet, Véronique Reilsoult, sans poursuivre forcément sur cette réflexion intéressante sur l'état profond de la France. Est-ce qu'en matière de message, il y a un risque de confusion, pour ne pas dire de contradiction même ?
Sur
les messages des retraites.
C'est ce qu'on disait au début de l'émission, c'est que c'est la difficulté de comprendre les différents régimes, c'est un sujet de transparence et que c'est quand même relativement complexe, même si c'est toujours étonnant de voir à quel point les Français sont quand même assez pointus quand il s'agit de mesurer à aujourd'hui les mécaniques qui peuvent sembler parfois un peu complexes. Ils les maîtrisent assez bien, il y a pas mal de tutos et de données assez concrètes qui sont partagées. C'est un sujet de confusion globale et puis ils reviennent sempiternellement sur deux sujets. c'est quelle est la valeur du point. C'est un vrai sujet pour eux. Et l'autre sujet, c'est alors après, est-ce qu'on doit l'appeler régime spécial ou régime spécifique? C'est un vrai débat, mais voilà, la prise en compte de la spécificité de chacun et des parcours professionnels des uns et des autres, à aucun moment les Français ne remettent en question ce point-là.
Quoi. Pascal Jalabert, vous êtes d'accord avec Sophie de Menton? Trop de débats franco-français sur ces questions-là?
Oui, trop de débats, mais bon, comme c'est complexe, il faut bien concerter et aller dans le détail à un moment donné.
Expliquer, c'est pas pareil. Voilà. Il va falloir faire de la pédagogie, ils n'osent pas faire
mais
la pédagogie.
Mais être très précis. Il va falloir
être très précis.
Alors, parce que si on reste dans l'imprécision et le flou, ça va être catastrophique. Oui. Après, Édouard Philippe en a parlé, mais a peut-être pas assez insisté.
Il fait exprès.
Non, mais je parle d'un autre point, c'est que, à mon avis, on ne peut pas faire cette réforme des retraites sans penser à l'emploi, entre guillemets, des seniors. C'est-à-dire des salariés qui sont les plus âgés. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand une entreprise est en difficulté, quand il y a un plan social, quand un salarié est fatigué, qu'est-ce qu'on fait? On trouve des solutions. Qui c'est qui part? Ce sont les seniors. On trouve des solutions, entre guillemets, pour s'en débarrasser, souvent concertées. Donc, à mon avis, les deux points sont indissociables. Et il y en a un troisième, c'est aussi le grand âge. Parce qu'on vit plus vieux. Et ça aussi, il faut le financer. Donc, faire une réforme uniquement sur les retraites, sans penser à la phase juste avant et à celle juste après, c'est un peu compliqué.
Ah, il pourrait le dire,
dernier
ça.
Mot, Einstein, dernier mot.
Elle est déjà assez compliquée comme ça. Ça oui, mais vous lui assignez d'autres objectifs.
Ah, mais
on n'est pas arrivé. Concernant les personnes âgées dont vous parlez, le Premier ministre en a parlé. Il a clairement rendu la balle au patron.
Oui,
en disant,
absolument.
C'est à eux de se débrouiller.
Sachant que les quatre travailleront jusqu'à 71-72 ans.
Oula.
Et que c'est... Bah oui, si ils partent très tard.
Allez, Sophie de Menton. Sophie de Menton, tiens, gardez la main. Quel est le sujet de votre chronique dans Challenge?
Eh bien, écoutez, c'est l'état profond.
L'état
profond.
Allez, pour cela que vous connaissez bien le sujet. Pascal Jalabert, à la une des titres du groupe Ebra.
Alors, les retraites, et puis l'information exclusive que nous avons obtenue, le nombre de demandeurs d'asile en France cette année va rattraper le nombre de demandeurs d'asile en Allemagne. Ce n'est encore jamais arrivé.
Allez, information dans les journaux du groupe Ebra, dans tout l'Est de la France. Merci à vous, Véronique Reissoult. Merci, Sophie de Menton, Pascal Jalabert, Gilles Bernstein. À demain pour une toute nouvelle édition des Informés de France Info. Bonsoir.